Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour et bon dimanche. Il est 13h, vous écoutez le programme en français sur Radio SBS. Au programme aujourd'hui, et comme chaque dimanche, nous aurons de l'actualité, nous aurons de la culture et nous parlerons également de notre communauté, la communauté francophone en Australie. Mais pour débuter cette émission, eh bien passons à notre personnage de la semaine, l'actualité vue par une des personnes qui a marqué cette semaine.
French. Mardi, jeudi, samedi et dimanche, à 13h ou à tout moment, en ligne.
Allez, notre personnage de la semaine. Aujourd'hui, avec Valentine Saboureau, nous allons parler de foi, de courage et de compassion en évoquant Marianne Budd, une évêque épiscopalienne qui détonne dans le paysage religieux actuel.
Bonjour, bonjour à tous. Les femmes d'église font rarement la une des médias. Celle-ci est une exception remarquable puisque nul n'aura échappé à sa mince silhouette et au sermon prononcé avec beaucoup de douceur au lendemain de l'investiture du président américain Donald Trump. Marian Edgar Budd, évêque au diocèse épiscopal de Washington, qualifiée de méchante pour avoir prêché la miséricorde, est devenue une figure politique centrale, suscitant autant de louanges que de critiques.
Alors, le jour de son investiture, Donald Trump a signé de nombreux décrets dont certains toucheront durement les plus fragiles.
Oui. Outre le retrait des États-Unis des accords de Paris ou la grâce présidentielle accordée à plus de 1500 personnes impliquées dans l'assaut du Capitole en 2021, Donald Trump a signé un décret pour protéger le peuple américain contre l'invasion, ciblant sans détour les immigrés en situation régulière. Et un autre pour le rétablissement de la vérité biologique, c'est-à-dire contre les personnes trans. Ce sont ces politiques-là en particulier qui ont fait réagir l'évêque épiscopalienne Marian Budd le 21 janvier lors du service religieux célébré en présence du nouvel hôte de la Maison Blanche.
In the name of our God, I ask you to have mercy upon the people in our country who are scared now. There are gay, lesbian, and transgender children in Democratic, Republican, and independent families, some who fear for their lives. And the people who pick our crops and clean our office buildings, who labor in poultry farms and meat packing plants, who wash the dishes after we eat in restaurants and work the night shifts in hospitals, they may not be citizens or have the proper documentation. But the vast majority of immigrants are not criminals.
Bien entendu, les réactions n'ont pas tardé.
Et bien, dès le lendemain, le président s'est emparé de son réseau Truth Social pour faire part de son mécontentement. À part ses déclarations inappropriées, a-t-il écrit, le service était très ennuyeux et sans inspiration. Elle n'est pas très douée pour son travail. Il en a profité pour qualifier Marian Budd de méchante radicale de gauche, dont il attendait des excuses. Virulent, l'élu républicain Mike Collins a tweeté sur X qu'il faudrait ajouter son nom à la liste des expulsions. Quant au pasteur de la First Baptist Church, Robert Jeffries, il a trouvé les paroles de l'évêque insultantes à l'égard de notre grand président. Le porte-parole national de l'église épiscopalienne a cependant confirmé son soutien à l'appel de Marian Budd à exercer les valeurs chrétiennes de compassion. Et les chrétiens les plus libéraux disent aujourd'hui se retrouver dans son sermon au point de se réconcilier avec une église dominée par les conservateurs.
Marian Edgar Budd a déjà fait parler d'elle dans le passé.
Absolument, et notamment en 2017, lorsqu'elle avait accepté d'accueillir le tout premier service de prière d'investiture de Donald Trump au sein de la cathédrale. À l'époque, cette décision avait été critiquée, mais elle l'avait défendue, arguant qu'elle essayait de créer une église où nous parlons réellement à des gens qui voient le monde différemment de nous. Elle s'était ensuite rendue à la marche des femmes à Washington. Après le meurtre de George Floyd, alors que Donald Trump s'était fait photographier devant l'église Saint John, elle n'avait pas hésité à prendre la plume pour s'exprimer dans le New York Times. Regrettant que le président ne profite pas de sa position pour appeler à la justice et au calme, elle avait dénoncé sa posture. À la place, écrivait-elle, « Monsieur Trump a fait usage de symboles sacrés pour se parer d'une autorité spirituelle alors même qu'il défend des positions opposées à la Bible qu'il tient entre les mains. » Et le 19 septembre 2024, elle a également cosigné une lettre ouverte avec 200 dignitaires religieux issus d'églises différentes pour appeler tous les croyants et tous ceux qui sont dotés d'une conscience morale à défendre la démocratie.
Et depuis le 22 janvier, elle reçoit des menaces de mort.
Alors elle a déclaré ne pas lire tous les commentaires en ligne, mais son équipe affirme être inquiète. Marion Boone n'est pourtant pas un molosse armé jusqu'aux dents. C'est une femme fluette de 65 ans, à la coupe courte et grisonnante, mère et grand-mère, animée de sa seule foi et de son courage. Le 25 janvier dernier, des théologiennes françaises du comité de la Jupe, Anne Soupa et Sylvaine Landrivon, ont publié une tribune dans Le Monde, soulignant que la seule voix discordante à l'adoubement de Donald Trump était venue d'une femme évêque, qualifiée par elle de « lueur d'espoir dans un monde impitoyable ». Elles ont également fait un parallèle troublant avec le pasteur luthérien Dietrich Bonhoeffer, connu pour être l'un des premiers religieux allemands à avoir dénoncé les exactions nazies. Il est mort exécuté dans un camp de concentration. Alors prions pour que l'histoire ne se répète pas. En attendant, sachez qu'on s'arrache « How we learn to be brave », « Comment on apprend à devenir brave », un livre de Marion Boone, publié en 2023. Il est actuellement en rupture de stock, mais il est en cours de réédition et on peut déjà le précommander.
Vous écoutez le français sur Radio SPS.
La vie c'est comme une image, tu t'imagines dans une cage ou ailleurs. Tu dis c'est pas mon destin ou bien tu dis c'est dommage et tu pleures. Je cours et je me sens toujours tout seul.
Albin de la Simone avec « Oh, je cours tout seul » en ce dimanche sur Radio SBS. Courte pause, on se retrouve dans quelques instants.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à l'histoire de l'Australie. Je vous propose ici d'écouter la troisième et dernière partie de notre mini-série consacrée à l'histoire de la monnaie en Australie. On a expliqué à la fin du deuxième épisode que l'Australie avait inventé un nouveau type de billet, le billet en polymère, c'est-à-dire un billet en plastique. On va s'intéresser dans cet épisode au succès de ce billet au-delà des frontières de l'Australie, puisqu'il va finir par être adopté par des dizaines d'autres pays à travers le monde. Très bon épisode. Oui, alors effectivement, je me suis intéressé au sujet l'année dernière, en fait, et alors, il y a des faux billets australiens actuellement, mais en nombre très limité. Mais voilà, et, d'après plusieurs études internationales, le taux de faux billets en circulation de billets australiens est, par exemple, très inférieur à celui des euros ou des dollars américains, qui restent des billets faits en papier coton et qui sont donc un peu plus faciles à reproduire. Toujours est-il que c'est une innovation. L'Australie a été la première à inventer ce type de billet Et à ce titre, l'Australie a un petit privilège que seulement quelques nations dans le monde partagent, c'est qu'elle a aussi, et elle continue, d'imprimer des billets de banque pour le compte d'autres pays. J'ai visité en fait l'imprimerie nationale australienne, qui est un peu un endroit ultra sécurisé. Et par exemple, quand j'y suis passé, eh bien, la banque australienne imprimait également des billets pour la banque centrale de Singapour ou des kina de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et je le disais, ça, c'est quelque chose que très peu de pays dans le monde font. La France le fait, on sait par exemple les francs CFA, c'est également le cas de la Grande-Bretagne, mais vraiment, c'est un privilège partagé par très peu de pays. L'Australie a vraiment innové avec ses billets.
Oui, complètement. Alors, quand on pense qu'effectivement imprimer monnaie est une prérogative par le passé royal et maintenant de l'État, il semble particulier que, en tant qu'État, vous fassiez imprimer votre monnaie par un autre État. Ça vous met dans une situation un peu délicate et des enjeux de souveraineté. Mais bon, là, en fait, un État, si l'Australie rompait son contrat, pourrait se mettre à en produire. Ça prendrait du temps. Il y aurait des changes monétaires, enfin des changements monétaires importants. Mais disons que c'est pas aussi critique que de produire ses propres médicaments en temps de pandémie, si vous voyez ce que je veux dire. Ce qui fait que, effectivement, l'Australie produit des billets en polymère pour d'autres pays. Pourquoi? Parce que elle dispose de la technologie. C'est une technologie qui est un petit peu coûteuse et complexe à mettre en place. Mais une fois que vous avez les bons matériaux chimiques, que vous savez les mélanger, que vous savez produire des mécanismes de sécurité sur les billets et que vous savez les imprimer, vous pouvez effectivement louer ce service à d'autres pays. Et comme vous l'avez rappelé, d'autres pays ont effectivement opéré cette transition vers les billets en polymère. Certains ont essayé et renoncé. Grosso modo, disons qu'il y a 200 pays dans le monde, près de la moitié a essayé à un moment donné ou continue d'utiliser des billets polymères. Donc, en fait, on devient, nous Français, peut-être de plus en plus l'exception par rapport à tout plein d'autres pays dans le monde qui utilisent aujourd'hui des billets, et bien des billets en plastique, tout simplement.
Oui, alors il me semble qu'il y a à peu près une cinquantaine de pays dans le monde qui les utilisent actuellement. Et on l'a dit, hein, c'est évidemment parce que d'un côté, la raison principale qui a poussé l'Australie à les adopter, à savoir des billets plus sécurisés, plus difficiles à falsifier. Mais apparemment, il y a un grand succès aussi dans un certain nombre de pays tropicaux, de pays assez pauvres également, où on utilise encore beaucoup l'argent liquide parce que, eh bien, ces billets, eh bien, sont très résistants. Vous l'avez dit, ils survivent à la machine et donc aussi à l'humidité. On m'avait donné l'exemple de certains pays où, faute de mieux, les gens enterrent leur argent au fond du jardin et, contrairement à des billets en coton, des billets en polymère, un an ou deux plus tard, on les retrouvera, ils seront toujours en bon état. Et on m'avait donné l'exemple du Mexique. Je crois que le billet le plus utilisé au Mexique, c'est le billet de 50 pesos. Ils sont passés au billet en polymère. Eh bien, comparativement avec les billets utilisés avant en papier coton, eh bien, il a une durée de vie 9 fois supérieure avant d'être tellement circulé qu'il est devenu inutilisable. Donc, c'est aussi un facteur d'adoption par d'autres pays dans le monde.
Et au contraire, l'inverse est valable dans des pays moins sujets à ces problèmes climatiques, où vous avez eu des tentatives. Hein. Les États-Unis s'étaient posé la question, le Canada avait même imprimé des billets polymères, et pour tout un tas de raisons, parfois ça ne prend pas, parce que on n'est pas habitué à avoir des billets plastiques et on n'accorde pas confiance à ce plastique comme on le fait à un billet que vous pouvez froisser et bien entendre et qui sonne effectivement comme la valeur qu'il a imprimée dessus. Et ça, c'est très important dans la monnaie. On parle de monnaie fiduciaire. Fidus, ça veut dire confiance en latin. Parce que si la valeur nominale n'est pas la valeur réelle, il faut que vous ayez confiance que votre billet de 500 francs ou de 500 euros valent effectivement cette valeur. Et donc la confiance que vous accordez à ce matériau est très importante et elle est déterminante dans la stabilité monétaire.
Alors, on l'a dit, donc c'est l'Australie qui a inventé ce type de billets et ils sont quand même répandus dans pas mal d'endroits à travers le monde. Mais le paradoxe, c'est que de là où c'est parti, donc l'Australie, eh bien, des billets et du cash de manière générale, on en voit quand même de moins en moins. C'est un mouvement qui a déjà été amorcé depuis quelques années. On paye de plus en plus avec sa carte bancaire, voire même carrément aujourd'hui avec son téléphone portable, et qui s'est vraiment accéléré avec la pandémie. Est-ce que le cash en Australie est amené à totalement disparaître? Il y a un certain nombre de gens qui prédisent l'avènement d'une cashless society. Vous y croyez?
Alors, de mon vivant, probablement pas. À terme, je ne suis pas voyant, donc je ne peux pas vous dire. Et les personnes qui parlent de cashless society, souvent, quand vous creusez un peu, ont des intérêts à ce que la société devienne cashless, sans cash. Donc, j'y crois pas beaucoup en réalité. C'est plutôt idéologique et politique que réel. Pourquoi? Pour tout un tas de raisons. Par exemple, quand vous avez des pannes électroniques, vous ne pouvez plus payer. Je pense que c'est arrivé peut-être à chacun d'entre nous. Moi, ça m'est arrivé récemment, en France d'ailleurs, et en Australie également, où le terminal ne fonctionnait pas. Et donc, ben voilà, vous perdez quand vous êtes un business, vous perdez des milliers, voire des centaines de milliers, si vous êtes un business très important, de dollars. Donc, il faut une monnaie en cas, de crise. Par ailleurs, tout le monde ne dispose pas de téléphone ultra moderne. Et en fait, l'impression qu'en Australie, on utilise de plus en plus de paiements sans contact, elle est aussi déterminée de façon socio-économique. C'est-à-dire que c'est plutôt dans les villes, c'est plutôt les personnes aisées. Si vous allez dans les campagnes australiennes, le cash est encore roi, hein. C'est vraiment important. Et d'ailleurs, à ce sujet, récemment, le gouvernement australien a annoncé que pour tous les biens essentiels, nourriture, l'essence, les produits pharmaceutiques, les revendeurs, il y aurait une loi très prochainement qui les obligerait à accepter le cash. Parce que certains, pour éviter les vols de leurs employés, parce que ça les arrange, parce que ça leur coûte moins cher, etc., se sont mis à refuser le cash. Donc en fait, quand on dit le cash diminue, non, c'est pas vrai. La valeur monétaire de ce cash dans l'économie, elle continue à augmenter. Simplement, la proportion de paiements qui se font sans contact ou par carte bleue augmente. Pourquoi? Parce que la masse monétaire du pays grandit. Donc effectivement, la place des billets et des pièces en Australie aujourd'hui est en décroissance, diminue, mais le volume reste très important. Après, la France était très en avance dans les années 80-90 avec le paiement par carte bancaire avec les puces, d'une façon beaucoup plus importante que l'Australie à l'époque. Il y a eu un changement, ça s'explique par des facteurs culturels, mais on le voit, ça vous est peut-être arrivé, où vous allez dans un commerce, vous donnez un billet de 50 dollars et la personne qui est en face de vous a du mal à compter.
Oui.
Et ça, c'est problématique. C'est problématique en termes de literacy, en termes de savoir compter, et ça a un impact aussi sur la dépense. Il est prouvé que vous dépensez une somme en liquide moins rapidement et avec plus d'attention que une somme que vous ne voyez pas, que vous réglez par carte ou sans contact. Donc effectivement, il y a tout un tas de business et d'intérêts qui préféreraient qu'on transitionne vers une société sans cash parce qu'on dépense plus. Parce qu'on est plus assujetti, asservi à voilà, le téléphone, la facilité, etc. Après, il y a aussi le point de vue légal. Il est vrai que la criminalité utilise encore beaucoup le cash, mais proportionnellement, de moins en moins également, parce que il y a des investissements en crypto-monnaie, vous pouvez aussi falsifier des comptes. Enfin, voilà, l'argument de cash veut dire criminalité n'est plus aussi prévalent que ça a pu être au cours du XXe siècle. Et par ailleurs, pour ceux d'entre vous qui voyagent, si ce n'est beaucoup, de façon assez régulière, quand vous allez dans un pays étranger, vraiment étranger, entre guillemets, vous vous retrouvez avec des frais de carte bleue qui sont absolument monumentaux. Donc, il y a toujours intérêt à aller changer ses billets ou retirer des billets et les utiliser, parce que ça reste encore quelque chose de plus économique.
Absolument, et effectivement, je permets dernière incise sur ce sujet. Je me suis rendu il y a quelques mois au Japon et j'avais imaginé que cette numérisation de l'argent était généralisée à tous les pays développés. Eh bien, au Japon, pas du tout. Ça reste vraiment les espèces la forme d'échange principale de très très loin. Alors dans les grandes villes et les grandes enseignes, on peut payer en carte bleue, mais il y a encore énormément d'endroits là-bas où vraiment il n'y a que les espèces qui sont acceptées, donc c'est absolument pas une tendance inéluctable.
Oui, et ça, non, je commande parce que c'est extrêmement important. Ce n'est pas lié au degré de technologie. C'est lié, et parce que le Japon est une civilisation extrêmement technologique, c'est lié à la confiance que vous accordez dans la monnaie, dans la valeur de la monnaie, et donc qui, comment dirais-je, détient votre monnaie. Quand c'est à la banque, ce sont des chiffres, en fait, qui sont dans l'hyperespace, si vous voulez, hein, entre guillemets. Les banques ne détiennent pas, ne détiennent qu'une très faible proportion de monnaie réelle par rapport à la monnaie numérique, entre guillemets, si vous voulez. Et donc, il y a des pays où le Japon, par exemple, les États-Unis, aux États-Unis, les Américains sont très proches de leur sou en ce que ils préfèrent les avoir dans leur poche et en billets qu'à la banque. Il y a beaucoup d'échanges qui se font aux États-Unis en billets. Et donc, si vous n'avez pas nécessairement confiance dans vos institutions, vous allez investir dans du cuivre, de l'or, des métaux, des monnaies d'échange et garder vos billets. Donc, le niveau de numérisation du marché financier et puis de la monnaie dépend également en fait du niveau de confiance qu'on accorde à soit à l'État, soit aux institutions bancaires de cet État.
Très bien, eh bien, merci beaucoup Romain Fati pour toutes ces explications et bien chers auditeurs, la prochaine fois que vous boirez un mojito, eh bien rappelez-vous qu'il y a un peu plus de 200 ans, vous auriez pu acheter une brouette ou une pelle avec. Merci beaucoup et à très bientôt pour un prochain épisode de l'Histoire cachée d'Australie. Merci.
Merci à vous.
SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile gratuitement sur sbs.com.au/french ou téléchargez l'application SBS Radio.
Rien peut me ramener plus en arrière que l'odeur de la pâte à modeler. Maman est prof de maternelle, c'est même la maîtresse d'à côté. J'ai 5 ans et je passe par la fenêtre pour aller me planquer dans sa classe.
Ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête.
Aurel San avec sa chanson La Quête. Allez, on fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. On va parler de pâtisserie et de boulangerie.
Je suis dans nos studios de Melbourne avec Johanna et Ben Jean-Louis de la boulangerie pâtisserie de South Levin à Malvern East. Bonjour Johanna, bonjour Ben et bienvenue dans nos studios.
Bonjour.
Bonjour Audrey.
Johanna et Ben, vous avez des racines mauriciennes. Je crois que Johanna, vous avez entre autres étudié à Paris. Parlez-moi de votre parcours avant de South Levin. Qu'est-ce qui vous a donné le goût du pain, des gâteaux?
Ça commence, ça fait 20 ans que je suis dans le milieu hospitalité. J'ai commencé mes études en Angleterre, culinary art à Southampton. Après, je suis venue joindre mon frère à Melbourne 2007-2008, je m'en souviens plus, dont j'ai étudié la pâtisserie. Après, j'ai travaillé un peu à Melbourne, pas un peu, je travaillais dans les restos, dans les cafés, et graduellement, getting promoted and running a pastry. Et I found a new love for pastry rather being the kitchen. 2017, on part en France, et là, je regarde un petit peu les écoles, et là, j'arrive à Bercy. Et là, je vois EBP, École Boulangerie Pâtisserie de Paris. Et là, je rentre, je commence à parler avec les dames. Et là, je dis, OK, c'est pas mal, c'est pas mal. Après, je fais une application comme ça. Et après, ils me disent, j'ai une lettre saying that I've been accepted. And then I was like, oh, okay, so basically I work hard, save my money, and then next year I go back in France, study for 1 year, full training in Paris. Yeah. And then the teacher, I remember, said to us, du moment vous commencez à faire le pain, vous allez tomber amoureux. Et c'est vrai, c'est une science, c'est extraordinaire de travailler avec le pain. Et la viennoiserie, obviously.
Et puis vous êtes retournée en Australie et j'imagine qu'ouvrir votre propre boulangerie, pâtisserie, c'était un rêve que vous aviez?
J'ai toujours rêvé d'avoir petit resto ou café, mais boulangerie, c'était un peu... Je sais pas. Et après, je suis pas retournée directement en Australie. Je suis retournée à Maurice et là, je travaille un petit peu dans une French bakery up north of the island. Et au moment de retourner en Australie, il y a Covid. On est resté, moi et Ben, on est resté à Maurice avec la famille. Et après 2020, 2019 ou 20, moi, je me souviens plus. On est retourné en Australie et là, je commençais à travailler à Prahan Market. J'étais head pastry chef d'un petit shop qui s'appelle Sweet Greek. Et là, je travaillais pendant un an et quelques. Et un jour, Ben me dit, bon, on va faire quoi là? Je dis, what do you mean? Are we opening that business? Yes or no? And I was like, okay, let's do it then. C'est lui qui m'a motivé à le faire en général. Parce que moi, j'étais, okay, I'm good. Why would I get that stress of having a business and all that? And then Wally was like, let's do it. And then we start from there.
Une affaire de famille, donc vous avez des rôles différents. J'imagine, qu'est-ce que vous faites chacun?
He is a marketing, the fitter, because he's the eternal and fitter. He's all about fixing everything, the maintenance and paperwork, admin. Me, I'm more about the product development, the production and managing the staff.
Et comment c'est travailler ensemble, frères et sœurs? Est-ce que vous entendez bien? Est-ce que vous avez des conflits? Comment ça se passe?
Oh, c'est...
Well, il y a toujours des tiraillements, tu vois, là, il y a beaucoup... des arguments, mais on fait travailler des trucs.
Yes, it's good. We get along really well because he knows me, I know him. Yeah. So, yeah, it's, I think, really a good team. Because, like, when he knows his stuff, I know my stuff. When I say to him, please do this, he will do it. And when it comes to budgeting and all that, et je vais lui demander, et là, du coup, il va dire, no, let's do this way. On va le faire comme ça, on va faire comme ça. S'il y a une bonne entente, c'est du moment qu'il y a des compromis sa part et des compromis de ma part, et ça marche. C'est pas tout le temps facile, mais je pense que pendant... Ça fait un an qu'on est ouvert. Je pense que, ouais, ça marche entre nous. Ça n'affecte pas notre relation frère et sœur.
Et dites-moi, qu'est-ce que vous avez à votre menu? Donc, vous avez du pain, des viennoiseries, des gâteaux. Qu'est-ce que vous offrez?
J'essaie d'emmener Paris à Malvenise. Même le décor, les chaises, c'est très parisienne. On essaye de faire des gâteaux en française, des gâteaux françaises, mais avec une petite touche australienne. Parce que il faut pas oublier aussi qu'on est en Australie, les Australiens aiment bien, se retourner à leur base, à leur basic. On n'essaie pas de faire des trucs trop fancy, trop, je sais pas, comme les entremets, les macarons, parce que on a essayé, on a vu que ça ne marchait pas, les Australiens partent toujours ce qui est bien, à leur origine. On fait des spéciales françaises, comme les galettes de roi, on leur fait goûter, ils adorent. Et petit à petit, on introduit, les éduque, ça vient de telle région, la cuisine terroir en France, parce que je passais beaucoup de temps en France aussi. Et baguette de tradition, c'est un des big sellers, la viennoiserie. Comment on veut dire ça? J'ai pris 3 ans pour développer ma pâte à viennoiserie, parce que il faut, quand j'étais en France, je travaillais avec la farine française. Et en revenant, parce que le lait, tout ça, c'est différent, c'est une science. Et en retournant de France, en retournant de l'île Maurice, j'ai dû importer le beurre de Belgique, de France, même servir les beurres australiens, Nouvelle-Zélande, et pour avoir notre produit final. Et aussi, on fait quoi, Ben? Beaucoup de sandwich. Les Australiens, ils aiment le pie et leur sausage roll. Du coup, on fait une très bonne pâte feuilletée à la française et on met le sausage roll dans la pâte à feuilletée française. Voilà.
The best of both worlds.
The best of both worlds, yes, yeah. Exactly.
Et donc, un menu très français, mais j'ai vu que l'an passé, vous aviez un week-end, un événement spécial avec des plats de Maurice.
Oui, oui.
Racontez-moi, donc, qu'est-ce que vous avez servi durant ce week-end-là?
On fait ça 3 fois par an. Là, la prochaine sera en mars. En mars, pour la fête nationale de l'île Maurice. Et du coup, on a fait les pâtisseries mauriciennes. Parce qu'il faut savoir, il faut faire savoir aussi parce que la pâtisserie mauricienne est très influencée par la pâtisserie française. On avait fait génoise. On avait fait on a travaillé en collaboration aussi avec une autre pâtisserie mauricienne qui se trouve à Limbrook. Ça s'appelle Wistakers. Eux, ils font la pâtisserie mauricienne. Et là, j'ai dit, ben, on va travailler ensemble. Et là, ils ont dit, ah ouais, pourquoi pas. Et c'est... It worked really well. It was a great success. We sold out really quickly. Et c'était une très belle ouais. expérience. On va le refaire, en mars.
Pour ceux qui ne s'y connaissent pas vraiment en pâtisserie mauricienne, donc qu'est-ce que vous aviez au menu?
Alors, il y a trois items qui sont très populaires dans la pâtisserie mauricienne. Un truc qui s'appelle puits d'amour. C'est un genre de tarte sucrée, très sableux. Et on a une crème diplomate qui est pochée et avec du coconut. Et avec, des fois, on met la gelée de fraises ou de framboises ou de cherry. La deuxième, c'est napolitain. C'est, encore une fois, deux biscuits sandwich together avec la confiture de framboise. Après, on met une glaçage rose au-dessus, et ça aussi, c'est très populaire. Et la troisième, je pense que c'est tarte banane. Tarte banane. Et on fait cuire les bananes très caramélisées. Après, on met in the tart, and then we just bake it. It's really good. Really, really good. Yeah.
Et donc, vous avez été sold out, ça a été très bien accueilli. Est-ce que vos clients étaient surtout des gens de Maurice? Il y avait beaucoup d'Australiens aussi qui étaient intéressés. J'imagine qu'ils ne s'y connaissaient pas beaucoup.
Oui, il y avait aussi beaucoup d'Australiens.
Il y avait beaucoup d'Australiens qui veulent goûter, veulent essayer. C'est quoi ça? Vous voyez, il y avait du pâté poisson, pâté viande.
Poulet,
tout ça. Mais
du feuilleté custard. Ouais. Yeah.
Ils voulaient essayer.
Ils ont vraiment aimé. Et ils nous ont demandé c'est quand la prochaine. Pas seulement les Australiens, il y avait aussi les Indiens.
C'est ça, parce qu'il y a une grosse communauté indienne à Maurice aussi, donc j'imagine.
Oui, hindoue, oui. Il y a une grosse communauté hindoue, musulmane. On est très multiculturel. Et c'est ça qui fait la beauté de l'île Maurice, très multiculturel. Là, bientôt, ça va être Chinese New Year. On célèbre ça aussi, comme la Pâque, comme le Eid. Comme le Ramadan, on célèbre. Et comme Diwali, on célèbre et on mange.
Et vous disiez donc que le prochain événement mauricien, ça va être en mars.
Oui, oui, en mars. On va faire encore plus parce qu'il y a des gens qui sont venus de Geelong, de Pointe-Cook. Et quand ils sont venus, c'était ça. It was sold out. Et là, ils n'étaient pas contents. Hein? Là, on va faire encore plus, mais... La dernière fois, on a fait plus de 2000, presque 3000, quoi. Individuels, gâteaux, des trucs salés, et à 11h, we were sold out. Yeah.
Donc, on va garder un œil là-dessus. Alors, j'imagine qu'en vous suivant sur Instagram, on peut être au courant à chaque fois que vous répétez le week-end mauricien, donc pour savoir exactement c'est quand.
Yeah, yeah. On va mettre tout ça sur Insta, yeah.
Donc, on rappelle, The Salt Levin, c'est situé à Malvern East. C'est tout près du centre commercial Chadston. Merci beaucoup, Johanna et Ben, d'être venus nous visiter en studio à Melbourne.
Oh, thank you so
Merci
much.
Beaucoup.
Thank you so much for welcoming us. It was an honor. We're very happy to be here.
Choisissez sbs.com.au/french comme page d'accueil de votre navigateur Internet. Retrouvez les dernières informations et actualités, participez à nos sondages et contactez-nous. sbs.com.au/french.
Bertrand, à quoi vous pensez le soir en vous couchant? C'est quoi vos trucs, vos secrets? Comment vous faites pour être ce que vous êtes?
Bertrand Burgala, l'homme idéal. Chers auditeurs, avant de plonger dans notre podcast d'archives, permettez-nous de vous offrir un brin de contexte. Ces enregistrements sont des témoins du passé, des fragments historiques précieux. Nous vous invitons à écouter avec curiosité et respect en explorant les voix et les sons qui ont façonné notre histoire, tout en acceptant que les propos sont eux aussi des moments d'archives et peuvent, dans certains cas très rares, porter à confusion aujourd'hui. Merci de votre compréhension et bon voyage dans nos archives.
Oui, nous avons des contacts assez fréquents avec des collègues australiens.
Et ça a l'air singulier, mais en fait, c'est hyper important parce que ça vous permet de vous rencontrer en dehors de la blouse blanche et du laboratoire.
C'est surtout comme ça que ça marche. Ouais. Vous savez, les meilleures collaborations, c'est devant un repas, devant
bonne bouteille de vin,
voilà, à boire et on met des plans en place, des échanges d'étudiants quand on peut, et puis ça marche comme ça.
D'accord. Ces jeunes étudiants, justement, vous me faites un bon lien. Votre domaine, c'est un domaine qui est pris en compte par les jeunes.
Oui, les neurosciences en général, ça intéresse encore pas mal les étudiants. La neuroendocrinologie, on est considéré un peu par les neuroscientifiques. On s'intéresse à une partie du cerveau qui est la partie la plus basse, la plus basale, qui s'appelle l'hypothalamus, et on est considéré par les gens qui travaillent sur le cortex comme un petit peu ceux qui s'intéressent à la poubelle du cerveau, si vous voulez. Mais néanmoins, on a pas mal d'étudiants. J'ai par exemple une étudiante qui a eu une bourse d'études pour venir passer quelques temps à Brisbane, comme on le disait, pour travailler dans un laboratoire avec qui nous collaborons.
D'accord.
Et ils ont fait des études très remarquables dans le domaine de la croissance, qui est aussi importante pour la neuroendocrinologie.
D'accord. C'est intéressant ce que vous dites sur le cortex, parce que un des signes de l'Alzheimer, c'est dans le cortex.
Oui, oui. Oui, tout à fait. Le cortex, l'hippocampe, le striatum, mais c'est relativement compliqué parce qu'on s'aperçoit qu'il y a différentes formes de maladies d'Alzheimer. Certaines qui commencent dans le cortex, d'autres qui commencent au niveau du striatum, les formes familiales en particulier.
D'accord. C'est pour ça qu'un IRM, en fait, c'est clé, c'est hyper important.
Absolument. Absolument.
On peut voir un peu partout, en
voilà.
fait.
Voilà. Et comme je le disais tout à l'heure pour la génétique, pour l'IRM, c'est pareil. C'est-à-dire que maintenant, il y a des banques d'images qui peuvent être utilisées dans le monde entier. Chacun peut aller chercher sur les images qu'on trouve dans ces banques et faire sa propre recherche.
C'est là où la technologie, en fait...
C'est là où la technologie et la mondialisation apportent énormément.
D'accord. Question de lambda, pourquoi et d'où vient votre intérêt avec l'Australie?
Eh bien... C'est en 2000. J'ai été invité aussi à un congrès à Sydney. Et puis, j'étais venu ici pour donner une conférence à l'université de Melbourne. Et quelqu'un m'a dit, puisque j'avais le week-end à passer, tu devrais aller vers le parc national, Otway National Park. Et vas-y. Bon, je connaissais pas du tout. Et j'y suis allé et je suis tombé devant cette plaque du Lockhart. Et je m'étais dit à l'époque, si un jour j'écris quelque chose, ça commencera ici.
D'accord.
Et voilà comment ça a commencé. Et donc, j'ai fait plein de recherches sur l'Australie et puis sur toute cette belle histoire de la création de l'Australie.
En fait, c'est intéressant que vous partiez au Canada, que c'est deux pays qui sont quoi, une histoire qui est
un peu proche, oui, c'est ça.
Qui est quand même liée.
Absolument. Alors, pour le Canada, c'est une autre raison, puisque Jacques et moi, nous avons fait notre service militaire. À l'époque, on le faisait encore en tant que coopérant militaire au Québec.
D'accord.
Et donc, naturellement, on a un amour pour le pays dans lequel on était. puisque c'est tout de même un pays qui est très ouvert. Et puis c'est pour ça que j'ai voulu absolument faire quelque chose sur le Canada. Et donc la première partie, c'est cette merveilleuse découverte tout de même qui est fabuleuse. Elle, parce qu'en 2 ans, ces chercheurs ont réussi à trouver quelque chose qui soignait, parce que à l'inverse de la maladie d'Alzheimer dont on parlait tout à l'heure, on meurt pas de la maladie d'Alzheimer, tandis que du diabète, tout le monde en mourait.
Ouais.
Et ils ont obtenu le prix Nobel, non pas pour leur recherche fondamentale directement, mais quand des membres du comité Nobel, en 1922, sont venus à Toronto et ont vu que les gens pouvaient être sauvés, c'est-à-dire qu'ils ne mourraient pas de cette maladie, ils ne pouvaient pas faire autrement que de donner un prix Nobel à cette découverte. Parce que c'est rare de donner un prix Nobel 2 ans après une découverte. En général, c'est toute une histoire, c'est toute une vie de chercheurs. Et je raconte tout de même les grandes batailles qu'il y a eu entre les chercheurs eux-mêmes, parce qu'il faut pas croire qu'un laboratoire c'est merveilleux, c'est la société telle qu'elle est, avec les batailles entre les chercheurs, et naturellement la compétition qu'il pouvait y avoir obtenir le prix Nobel, parce que mine de rien, beaucoup de gens pouvaient revendiquer pas directement la découverte de la molécule elle-même, mais de l'idée, parce que Alfred Nobel, dans son testament, avait précisé qu'il ne pouvait pas y avoir plus de 3 personnes à obtenir le prix Nobel en même temps. Or, la recherche, comme on l'a dit, qui maintenant est mondiale, et ça pose aussi le même problème aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent revendiquer, en fait, une sorte de découverte, puisqu'à un moment ou à un autre, sur une grande découverte, on ne l'invente pas comme ça. Mm-hmm. C'est une suite logique d'un raisonnement que l'on peut avoir.
D'ailleurs, l'histoire nous le rappelle, hein, avec les découvertes autour du sida, par exemple.
Ah bah exactement, vous voyez, c'est exactement la même histoire.
Oui. Ah ouais.
Exactement la même histoire. Mm-hmm. Qu'elle soit entre 2 pays ou que ce soit même au sein du même laboratoire. Puisque là, c'est tout de même en plus au sein du même laboratoire.
Tout à fait.
Et l'histoire est une suite logique, puisque un problème, c'est que à cause de cela, le prix Nobel n'est pas toujours donné aux gens qui le mériteraient. Et le prix Nobel de 1923 a été donné à Frédéric Banting, ça c'est tout à fait normal, et à son directeur de laboratoire. Et c'est là où il y a eu une grande bataille. Alors qu'il y a 2 autres personnages, qui un est Best, qui était l'étudiant de Frédéric Banting, ne l'a pas eu, puisque le comité Nobel considérait que c'était l'étudiant. Et d'un autre côté, il y a eu aussi une autre personne qui est très importante pour nous, en tous les cas en neuroendocrinologie, qui est Bert Colip, qui est celui qui a découvert la majorité des hormones que l'on a dans une petite glande qui se trouve sous le cerveau, qui est l'hypophyse. Et Bert Colip, un jour, reçoit une lettre d'un jeune étudiant, comme ça se fait encore maintenant. Ce jeune étudiant vient d'Europe de l'Est, il s'appelle Hans Hellier, et c'est le père du stress.
D'accord.
De celui qui a découvert, en fait, les symptômes d'adaptation du stress.
D'accord. Donc, aujourd'hui, vous parlez du diabète.
Oui.
Quand vous voyez qu'il y a des jeunes qui ont des types 2 de diabète, etc., vous, en tant que chercheur, vous vous dites, mais on marche sur la tête?
Mais c'est impressionnant. Ou... Vous savez qu'on est 4 ici, on doit être à peu près 50% de prédiabétiques. Et la moitié d'entre nous est prédiabétique. C'est ce qu'il y a, certainement par la nourriture, hein, par l'évolution de notre société. C'est pas vrai dans toutes les civilisations, en tous les cas. Mais aujourd'hui, c'est comme ça. Et le nombre de cas de diabète chaque jour est en pleine augmentation. Bon, faut dire qu'on arrive plus facilement à les détecter. C'est le diabète de type 2.
Mm-hmm. Qui touche aussi les jeunes, en fait. Il y a des jeunes.
Alors, il y a deux choses. Il y a le diabète de type 1 qui est juvénile et qui a un non-fonctionnement de certaines cellules du pancréas qui ne répondent pas à cette hormone, l'insuline. Mm-hmm. Donc ça, c'est un peu génétique. Par contre, le diabète de type 2 est celui qui se développe beaucoup plus tard, que l'on peut tout savoir si on n'est pas diabétique comme ça, et qu'on appelle une insulino-résistance. C'est-à-dire que même si on a des récepteurs à l'insuline, ils ne répondent plus même au traitement de l'insuline. Mmh. Et parce qu'il y a une très mauvaise régulation des systèmes de régulation que l'on a régulièrement dans notre organisme. Et ça, effectivement, c'est très inquiétant, parce que d'abord, c'est une maladie qui est difficilement régulable, hein, on voit, hein, et puis qui coûte extrêmement cher en tous les cas.
Et qui entraîne énormément d'autres choses en plus.
Ah oui, parce qu'à partir du diabète, les maladies cardiovasculaires, toutes les maladies métaboliques et toutes celles en plus qu'on ne connaît pas, c'est extrêmement important.
Mais là, on voit un vrai changement dans la société en fait, parce que c'est, il y a eu l'insuline qui a un peu solutionné beaucoup de choses, et puis d'un seul coup, on remet en cause justement la valeur de l'insuline dans certains cas, parce que l'insuline répond plus.
C'est une autre maladie.
Oui,
c'est une autre maladie.
D'accord.
C'est une maladie qui est liée au mode de vie, au fait que on fait beaucoup moins d'exercice, au fait qu'on mange beaucoup trop gras, et donc c'est pour ça que il y a de plus en plus de jeunes. On s'aperçoit que les capacités physiques des jeunes générations sont moins bonnes en termes de capacité respiratoire, en termes de capacité de courir, etc. Parce que il y a moins d'exercice. C'est le problème de trop de télévision, trop de jeux vidéo et pas suffisamment de course à pied.
Et pas assez d'aller chercher les choses à pied et pas forcément prendre la voiture. Bah, c'était un grand plaisir de vous recevoir tous les deux. Merci d'avoir passé un peu de temps avec nous.
Merci à vous.
Merci d'avoir éclairci un peu sur ces sujets. Merci.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Clara Luciani, bien entendu, vous aurez reconnu sa voix avec La Grenade en ce dimanche sur SBS. Voilà, c'est tout pour notre émission ce dimanche. Merci de nous avoir écoutés. Je vous souhaite un très bon après-midi à tous. Je vous rappelle également que toutes nos émissions et tous nos podcasts sont disponibles sur notre site internet sbs.com.u/french. Et bien entendu, je vous rappelle également tous nos films disponibles, les films en français disponibles sur la plateforme d'SBS On Demand, sbs.com.u/on-demand. Voilà, c'est tout pour nous pour aujourd'hui. Bon après-midi à tous et bon appétit si vous êtes toujours à table. À mardi.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.